Nous sommes heureux cette semaine de partir à la découverte d'un institut séculier qu'on appelle le Prado. Père Philippe Brunel, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission, vous êtes de passage à Lourdes. Vous êtes prêtre du diocèse de Saint-Étienne et provincial de France du Prado. Le mot déjà, Prado, il va falloir nous donner quelques explications parce que je pense que c'est attaché à un lieu très particulier dans le diocèse de Lyon.
Oui, voilà, c'était un lieu qui était un dancing.
Salle de prêtres balle. Sont adossés à un lieu qui est un dancing.
Exactement, c'est-à-dire que le père Antoine Chevrier, hein, fin 19e, qui est mort en 1879, a fait une expérience très forte dans la nuit de Noël 1856. Ça faisait 6 ans qu'il était prêtre, vicaire, dans un nouveau quartier, en fait, qui n'était pas même encore Lyon, composé d'un tas de... C'était presque des bidonvilles, hein, avec des gens qui venaient à l'époque comme immigrés, mais du Dauphiné, du rural, etc., pour chercher du travail sur Lyon. Et dans ce bric-à-brac, d'ailleurs très, très précaire, puisqu'il y a eu aussi en 1956 une inondation, le Rhône a balayé complètement tout un tas de baraquements, etc. Et dans ce lieu-là, il y avait une salle qui était une salle de bal mal famée, très mal famée, qu'on appelait la salle de bal du Prado. Prado, sans doute, ça vient d'un mot espagnol qui veut dire simplement lépré. Hein. Il y a beaucoup de Prado partout. Hein. Quand vous regardez les lieux dits, etc., vous regardez sur Internet, il y a beaucoup de choses qui s'appellent le Prado. Bon. Il y a aussi les prêtres du Prado à cause de cette salle que le père Chevrier a louée puis achetée au départ, pour accueillir les jeunes de ce quartier qui étaient à la rue, souvent qui travaillaient dans des conditions très très difficiles, hein, au début de l'industrialisation, et qui n'avaient pas été ni à l'école, ni au catéchisme, encore moins. Mmh. Voilà.
Voilà d'où vient le Prado.
Voilà.
Il y a actuellement en France quelques 430 prêtres qui sont rattachés à cet institut. Pour qu'on comprenne bien et que peut-être on évacue cette question un peu d'organisation tout de suite, ces prêtres sont bien des prêtres des diocèses où ils résident, où ils sont incardinés, comme on dit.
Tout à fait. Oui.
Et en même temps, ils sont rattachés à cet institut.
Voilà. Oui, oui. Mais dans l'année de la vie consacrée, je crois qu'on a aidé à comprendre quand même, parce que la vie consacrée, il y a une partie de cette vie consacrée qui rassemble des instituts séculiers, justement, des gens qui sont dans le siècle, dans le monde, et qui pourtant font une consécration. Et c'est ce que le père Chevrier avait voulu pour des prêtres diocésains, prêtres séculiers, pas religieux, qui sont vraiment dans leur diocèse, avec le peuple de leur diocèse et leur évêque, et qui pourtant entendent un appel à une certaine radicalité évangélique, hein, les conseils évangéliques, et qui essayent de se dire « je m'engage à mettre ça davantage dans ma vie. Je ne suis pas religieux, mais j'ai moi aussi droit à vivre la radicalité de la pauvreté, de l'obéissance, de la chasteté. » Et c'est ce que le père Chevrier avait voulu dès l'origine pour ses prêtres, disant il n'y a pas que les religieux qui ont à vivre cette radicalité évangélique. Dans la nuit de Noël 1856, c'est ça surtout dont il a pris conscience et qu'il a bouleversé alors qu'il était prêtre depuis donc 6 ans. Et il dit il a découvert comment le Fils de Dieu, le Verbe, s'est fait chair. A pris chair de notre chair, s'est incarné vraiment. Et la pauvreté, c'est par là qu'il a commencé l'œuvre de Dieu, de salut. Et donc, il a dit, mais moi, il faut que je fasse pareil. Je ne suis pas qu'un fonctionnaire, on pourrait traduire ça comme... quand on est prêtre, on n'est pas simplement pour animer comme des animateurs, pour faire tourner une paroisse même. On est là pour incarner dans notre être de chair, dans notre vie personnelle, l'Évangile. Alors c'est un chemin, hein. Je ne vais pas dire que les Pradosiens y arrivent mieux que les autres, hein. Au contraire, si on fait un engagement, c'est aussi parce qu'on sent qu'on a besoin de l'Esprit-Saint pour y arriver. Mmh. Hein.
Donc nous disions, pour aussi aborder juste quelques instants la question des chiffres, il y a quelques 430 prêtres, hein, qui sont rattachés en France, au Prado, à cet institut, et 1200 dans le monde.
Dans le monde, à peu près, oui.
Oui, avec des expansions, en particulier des vocations du côté de la Corée, disiez-vous, du côté de Madagascar et de l'Amérique latine.
Oui, souvent, comme dans beaucoup de réalités ecclésiales aujourd'hui dans le monde, c'est dans ces régions-là qu'il y a un fort développement. Mais en France, puisque je suis provincial de France, je suis quand même fier aussi de dire que tous les 2 ans, à peu près, on a une petite équipe de 5 ou 6 prêtres qui décident de s'engager au Prado, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas si mal que ça. Hein. Mmh. Alors, ils sont parfois jeunes, des fois un peu moins jeunes. Souvent, ils ont 10, 15 ans de ministère et c'est pour eux un second souffle. Ils trouvent là aussi, un peu comme le père Chevrier, ils trouvent cet appel à la radicalité, à aller au-delà du faire pour être davantage transformé de l'intérieur dans une proximité avec le Christ. Et donc, c'est pour eux une étape importante.
Est-ce que vous avez un domaine d'action privilégié ? Alors, j'ose employer le mot. Est-ce que vous revendiquez un apostolat ou bien les prêtres du Prado, les pradosiens, comme on dit parfois, s'adaptent à ce qu'on leur demande de faire.
Voilà, nos constitutions,
à leur territoire.
Nos constitutions disent qu'on n'a pas d'apostolat ou d'œuvre particulière. Historiquement...
Vous êtes bon à tout faire.
Oui, mais on demande quand même à nos évêques de tenir compte de notre appel à l'attention aux plus pauvres. Or, il se peut que souvent les pradosiens soient envoyés dans des paroisses un peu difficiles ou dans des régions où voilà, personne ne veut aller. On est prêt à ça. Et puis d'autre part, dans quelques lieux où on se trouve, où l'évêque nous envoie, ça peut être même dans une paroisse bourgeoise, enfin une grosse paroisse, il y a toujours des pauvres. Le Christ nous a dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Donc, le pari du pradosien, c'est de travailler d'abord à partir d'eux.
Même... Vous n'êtes pas des prêtres ouvriers.
Alors, non. Historiquement, à une certaine époque, il y a un certain nombre de pradosiens qui ont fait ce choix, en accord avec leur évêque, parce que c'était dans cette même logique d'aller auprès de ceux qui n'ont pas trouvé la porte de l'Église. À une époque, le monde ouvrier avait besoin peut-être de missionnaires. Et donc, c'était dans cet élan missionnaire-là que certains pradosiens ont fait ce choix, qui a marqué surtout, à une certaine époque, et beaucoup les esprits, au point que certains disent les pradosiens, c'est des prêtres ouvriers. Alors que pas du tout. Ils n'étaient pas majoritaires. D'ailleurs, même à l'époque, il y avait beaucoup de pradosiens en paroisse, déjà. Et voilà, on est avec l'Église de notre temps à la recherche des meilleurs moyens de proposer, en particulier à des gens qui sont loin de l'Église, de mieux connaître, de mieux aimer, de mieux suivre Jésus-Christ.
Votre fondateur Antoine Chevrier, le père Chevrier, a été béatifié en 1986 par le pape Jean-Paul II.
Oui.
Oui. Parlez-nous de ce visage du père Chevrier. Qui est-il ? Qui était-il ? Était-il un homme fort, d'une grande stature, initiateur de grandes choses, ou bien plus enfoui ?
C'était une figure très, très simple, joyeuse, contrairement à ce qu'on peut croire en regardant l'unique photo pratiquement qu'on a de lui, parce qu'on l'a prise alors qu'il était très malade et à quelques semaines de mourir. Mais il avait cette joie de vivre et de ce rayonnement de l'Évangile. Mais c'était quelqu'un qui n'était, on pourrait dire, pas un fondateur au départ. Il n'avait pas une personnalité forte ou qui s'imposait partout. C'était quelqu'un plutôt de discret, quelqu'un qui a dû prendre sur lui aussi pour faire tout ce qu'il a fait. Et il en a fait des choses, hein, puisque en peu de temps, il a fondé non seulement cet accueil pour les jeunes en difficulté, où il y a des milliers de jeunes qui sont passés déjà de son vivant, et puis une formation pour des prêtres. Ça, c'était la pointe de son appel, former des prêtres et des apôtres pauvres pour les pauvres. Et donc, il a obtenu de l'église de Lyon, il est allé voir aussi le pape pour avoir la permission de former des prêtres, alors qu'il n'était pas spécialement au départ doué pour ça. C'était pas forcément quelqu'un qui, même intellectuellement, brillait, etc. Hein. Mais l'Église a toujours repéré chez lui quelqu'un qui avait quelque chose à apporter et qu'elle a reconnu, donc, y compris en 86, il y a 30 ans. Et on fête aussi, d'une certaine manière, à travers notre rassemblement à Lourdes, cet anniversaire des 30 ans de la béatification du Père Chevrier, en espérant qu'il soit bientôt canonisé.
Oui, justement, ce mois de novembre 2016 sera marqué spécifiquement dans vos calendriers comme un moment important, puisque c'est le premier rassemblement du Prado de France qui a lieu à Lourdes, oui, et qui fait que vous êtes de passage. Oui. Ce qui reste aujourd'hui du Père Chevrier, outre cet institut, il y a également une rue où vous habitez vous-même, la rue du Père Chevrier.
Où tout le monde peut venir faire des pèlerinages. Il y a la chapelle du Père Chevrier, donc dans l'ancienne salle de bal.
Tout ça à Lyon. Hein,
tout ça à Lyon. Il y a aussi un petit musée, puis sa chambre, et puis sa tombe. Hein, voilà.
Oui. Nous allons marquer une pause dans cette émission. Juste après, Père Philippe Brunel, vous qui êtes provincial de France du Prado, nous continuons ce dialogue avec vous pour parler de ce que vous-même, vous avez fait comme choix dans votre vie. Comment se fait-il que, comme prêtre diocésain du diocèse de Saint-Étienne, vous avez décidé d'entrer vous-même dans cet institut pour en devenir aujourd'hui le provincial ? À tout de suite.